Eh bien, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette nouvelle soirée des mardis d'études publiques du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, la 55e soirée du nom, organisée en partenariat avec la revue Études. Et bien sûr, je salue aussi tous ceux qui sont en direct avec nous dans plusieurs villes, par ordre alphabétique, Aix-en-Provence, Athènes, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Perpignan, Saint-Étienne et plus tard Poitiers en différé. Alors, lorsque le mois dernier j'avais annoncé le thème de ce soir, j'avais senti dans la salle quelques exclamations diverses mais significatives qui pouvaient s'interpréter certainement comme le plus vif intérêt pour ce choix. Manque de croissance, chômage et angoisse des salariés, déficit public, pression fiscale, désindustrialisation, déflation peut-être, difficultés des entreprises certainement. Voilà, tout cela et bien d'autres aspects encore, tout cela suscite des inquiétudes, des interrogations et on ne manque jamais d'ailleurs dans ces cas d'incriminer Bruxelles. Il est donc plus que légitime de se poser la question où va l'économie française, ou encore peut-être est-elle en plus mauvaise position que ses voisins européens. Le sujet est complexe, on s'en doute bien, et l'on pressent que les réponses apportées ce soir ne prétendront pas tout régler, mais il est important d'y voir plus clair, spécialement dans une soirée qui se veut d'éthique publique. Par-delà bien des aspects techniques, des chiffres, des taux, des statistiques, au fond, c'est d'une société qu'il s'agit, de son vouloir vivre, de son présent, de ses ressources les plus profondes aussi, de sa capacité politique à débattre, à se donner des orientations responsables. Alors, pour nous aider à réfléchir ce soir, je suis très heureux d'accueillir messieurs Dominique Seux et Xavier Timbaud, particulièrement reconnus pour leurs compétences dans le domaine que nous abordons. Et je vous remercie d'autant plus d'avoir accepté mon invitation qu'elle vous a été adressée tout récemment, c'est-à-dire tardivement, un petit peu selon le principe de ces soirées, et que l'on peut imaginer combien vous êtes sollicités sur ces sujets et qu'il n'est pas toujours, ou sans doute peu souvent, difficile de vous libérer. Dominique Seux, vous êtes rédacteur en chef du journal économique Les Échos, journal bien connu, et chroniqueur du lundi au vendredi sur France Inter. Nous étions certainement nombreux à vous écouter ce matin à 7h20. En tout cas, 1 600 000.
C'est très tôt, hein.
En tout cas, 1 600 000 personnes en France, ai-je vu. Voilà, vous êtes un observateur, un analyste de la situation économique et vous avez la passion d'en rendre compte avec lucidité aussi lorsque vous avez pu dire une fois, j'ai noté, il y a autant d'experts de la crise que de crise des experts. Xavier Timbaud, vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. À Sciences Po, vous avez écrit de nombreuses publications, articles, contributions et notamment, si j'ai bien noté, un livre qui est paru l'an dernier, « La crise sur un plateau, perspective 2013-2014 ». Et nous y sommes, nous sommes bien dans le sujet. Alors voici comment nous allons procéder. Chacun de vous va s'exprimer pendant un quart d'heure environ, ou un petit peu plus, avec quelques diapositives que nous essayons de retransmettre, voilà, malgré quelques petites questions techniques. Ensuite, vous débattrez directement entre vous sur l'un ou l'autre sujet complémentaire, peut-être transition énergétique, partage du travail, la commission de Bruxelles. Puis viendra, comme d'habitude, un temps de questions. Et donc, Dominique Seux, où va l'économie française? Que peut-on en dire?
Alors, bonjour à tous, bonjour ici à Paris et à tous ceux qui sont dans les villes qui ont été mentionnées. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est vrai que la période est absolument passionnante pour les observateurs. Alors, elle est difficile pour les sociétés, hein, pour les peuples et les sociétés. Elle est passionnante et elle appelle en même temps, vous aviez la gentillesse de rappeler une formule que j'ai utilisée, que j'aime bien effectivement, elle appelle une certaine modestie dans les explications. On voit qu'il y a eu ces dernières années pas mal d'erreurs, à la fois des commentateurs, bon ça c'est pas très grave, mais aussi des acteurs, ça ce qu'il est un peu plus. On va essayer de regarder un certain nombre de choses, peut-être d'abord tout simplement de regarder le monde dans lequel nous vivons, parce qu'évidemment la France n'est pas seule sur une île. Ce qui frappe, la première chose qui frappe quand même, c'est que l'Occident était seul il y a une trentaine d'années. Nous ne sommes évidemment plus seuls. Alors si l'Occident n'a pas perdu sa puissance économique, il a évidemment perdu le monopole de cette puissance. Et ça change tout et ça a une influence naturellement sur... sur notre avenir, sur la conjoncture économique et sur les grandes évolutions économiques. Et au fond, nous sommes traversés tous par une sorte d'angoisse en France, mais aussi dans d'autres pays de moyenne importance, comme la France. Sommes-nous assurés tous de rester en première division? La question est simple, la réponse l'est pas, complètement. Nous ne sommes pas certains que dans les 10 à 15 ans qui viennent, nous serons encore en première division. Serons-nous encore maîtres de notre destin? Juste un graphique pour le montrer, pour voir simplement que les pays développés représentaient 57% du PIB mondial en 2000, c'est-à-dire il y a même pas 15 ans, et aujourd'hui c'est environ 40%, un peu plus de 40%, 44% pour être précis. Alors si la Chine représente 60% de l'évolution des émergents, on voit quand même que c'est un changement absolument considérable. Et on ne peut pas regarder la crise qui frappe la France aujourd'hui et l'Europe dans son ensemble sans tenir compte de ce bouleversement absolument majeur. Si il y avait une seule idée à retenir, c'est que se referme la parenthèse de deux siècles au cours de laquelle la taille d'un pays et sa puissance étaient déconnectées. Pendant longtemps, pendant deux siècles environ, des petits pays, par la superficie, par le nombre d'habitants, ont finalement contrôlé l'économie mondiale. Cette période est probablement révolue. La taille d'un pays, sa superficie, sa population, parce que le savoir est accessible partout, sont corrélés à la puissance. Et évidemment, pour nous, pays vieillissants, moins nombreux, plus petits, c'est évidemment difficile. J'aimerais dater peut-être cette entrée dans cette période en, disons, les JO de 2008. Un indicateur pour s'en rendre compte, le salaire minimum aujourd'hui sur les côtes chinoises est supérieur à celui de la Bulgarie. La mondialisation, pour finir sur ce contexte international, a quand même, parce qu'avant de parler de toutes les difficultés de l'économie française, rappelons quand même une chose, c'est que cette mondialisation réduit formidablement les écarts de niveau de vie entre les pays. Le nombre de gens vivant dans la misère la plus absolue a été divisé par 2 en 20 ans. J'ai un graphique sur ce point qui montre effectivement, on voit que les objectifs du millénaire qui avaient été fixés par l'ONU ont été atteints avant même les échéances qui avaient été fixées. La mondialisation est très critiquée, elle a des défauts, bien sûr, elle a des lacunes, mais ce résultat a été obtenu. Alors vous allez me dire, 1,25 $ par jour, évidemment c'est assez faible, bon c'est 1,25 $ constant, bien sûr, mais c'est un résultat. Alors évidemment, en même temps, on sait que les inégalités se développent dans les pays du Nord, donc s'il fallait utiliser une formule, vous savez que les journalistes adorent les formules, on dirait qu'il y avait autrefois le nord et le sud, et bien on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui du nord au sud et du sud au nord. Et évidemment, tout notre enjeu, c'est de trouver des solutions à cela, même si la France, on va le voir, est un peu dans une situation atypique, moins touchée en termes de niveau de vie que beaucoup d'autres pays développés par cette mondialisation, mais touchée en termes d'emploi. Et au fond, derrière, pour tous nos pays, la grande question, c'est l'avenir des classes moyennes. Le XXe siècle a soumis à interrogation, a bousculé la classe ouvrière, c'est la classe moyenne qui aujourd'hui se retrouve sur la sellette. Avec une question que je lance simplement, il est possible que depuis quelques années, voire quelques mois, il y ait une sorte de ralentissement de la mondialisation. Alors on en parlera peut-être avec Xavier tout à l'heure, mais les dernières statistiques de l'Organisation mondiale du commerce, on voit qu'il y a une relocalisation d'un certain nombre d'activités, notamment financières bien sûr, mais les chaînes de production commencent peut-être à se raccourcir. Si on resserre un petit peu l'objectif et qu'on regarde l'Europe, bon, vous avez tous été frappés peut-être par cette formule lancée à Strasbourg par le pape François, « Europe, où est-on en énergie ?» Au fond, on peut faire beaucoup de discours, on peut dire énormément de choses, mais les choses se résument un peu comme ça. Il y a eu beaucoup d'énergie en Europe pour créer l'euro, c'était probablement le dernier élan dans les années 90. Il y en a eu aussi pour sauver l'euro en 2010, il y a 5 ans, disons, mais il y a une sorte d'épuisement. L'euro n'a pas été mis à profit, il faut le dire, hein, l'euro n'a pas du tout été mis à profit pour être une force centripète, pour que les économies se rapprochent, mais ça a été vraiment une sorte centrifuge, hélas. Chacun, chaque pays a profité du parapluie des taux d'intérêt très bas allemands, disons, pour faire un peu des bêtises et aller sur sa pente naturelle. La France a fait les 35 heures, les Grecs ont multiplié par deux les salaires de la fonction publique, l'Espagne s'est enfoncée dans a construit à tout va, un peu partout et n'importe comment, et d'une certaine manière, l'euro a accusé des écarts alors qu'il devait les réduire, et nous sommes aujourd'hui encore dans l'incapacité, nous Européens, de trouver des réponses. Il y a des petits bouts de réponses, vous avez entendu parler de l'union bancaire, vous avez entendu parler du plan d'investissement Juncker, on en reparlera peut-être, mais on voit bien que que l'Europe a du mal à répondre aux soubresauts extrêmement violents auxquels l'Europe a été soumise. Alors, où en est la France? Je dirais que la France est aujourd'hui un peu vraiment sur la tôle ondulée. La conjoncture reste à l'heure actuelle très très poisseuse. On se balade entre le 0 plus et le 0 moins, on pousse des hauts cris dès qu'il y a 0,2% de croissance sur un trimestre, et on dit absolument formidable, ce sont des taux extrêmement, extrêmement bas. Je vous ai amené un graphique qui montre que l'activité économique, si vous regardez les PIB, alors on a pris les PIB en base 100 en début 80-2008, quand l'activité était à son pic avant la crise. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc si vous suivez la ligne des 100, alors je suis un peu décalé, donc je ne vois pas très bien le graphique, donc j'essaie de m'en souvenir. La France est légèrement au-dessus de 1,5 point. Les États-Unis sont au-dessus, l'Allemagne aussi, et puis vous voyez des pays en ligne verte, je pense, comme l'Italie, qui sont très, très en dessous. Ça veut dire que 6 ans après la crise de 2008, nous avons rattrapé simplement le niveau d'activité de cette époque, mais à peine plus. Ça ne s'était jamais produit dans l'histoire économique moderne, en tout cas depuis la crise de 1929. Et en réalité, les chiffres que je viens de vous montrer sont faux. Pourquoi? Second graphique, parce qu'il faut évidemment raisonner en termes de PIB par habitant. C'est ça qui est important. Or, la population française, c'est sa chance, c'est sa force, a augmenté depuis 2008 de l'ordre de 1,2 million d'habitants. Et donc, le PIB par habitant, lui, a décru. Et donc, le sentiment d'appauvrissement des Français depuis 2008 s'explique tout à fait. Il est tout à fait compréhensible parce que c'est la réalité. Et donc, nous sommes confrontés à une période de 6 années de croissance zéro. 0 plus, 0 moins. Alors, c'est vrai que d'autres pays font moins bien. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce. Et c'est vrai que la France, dans la crise, est descendue moins bas et remonte moins haut. On pourrait dire que c'est une économie pouf, alors que d'autres économies, comme l'économie britannique, c'est une économie trampoline. Les Britanniques sont descendus très fortement et ils sont remontés très brutalement. Voilà. Les Allemands, c'est un peu plus accusé, ça effectivement. La France est descendue moins bas et remonte nettement moins vite. 2013, 0,4 points de croissance. 2014, c'est à peu près la même chose, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'enthousiasmer. Et on voit bien sur le graphique que les niveaux de chômage restent absolument considérables. Nous avons cru, alors évidemment, les conjoncturistes, les économistes et les commentateurs, notamment dans la presse, nous suivons ça très très près. Nous avons cru au mois de septembre qu'il y avait un redémarrage. Non, le redémarrage a été avorté. Tout le monde attend beaucoup en ce moment l'effet de la baisse du pétrole, qui est attendu comme le nouveau miracle à attendre. On peut estimer que les astres se remettent un petit peu, s'alignent un peu à nouveau dans le bon sens avec la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, des taux d'intérêt extraordinairement bas, des politiques budgétaires qui, dans l'ensemble de l'Europe, sont à peu près neutres maintenant, c'est-à-dire n'ont plus d'effet, récessif. Et donc, on peut se dire que les choses vont aller mieux. La grande question, c'est de savoir si la France est en capacité de prendre le vent qui va souffler un petit peu. Et c'est une question à laquelle j'ai peur de devoir répondre, à mon avis, plutôt par la négative. Il suffit de regarder les causes profondes des difficultés de l'économie française. Vous avez un graphique qui montre la désindustrialisation de l'économie française en quelques années. Et ça, c'est quelque chose de structurel, qui est profondément lourd. Alors, si on essaye de regarder un peu maintenant plus profondément les causes de des difficultés économiques françaises, j'aimerais, avant de parler d'économie, de parler un peu de psychologie. Il me semble que nous traversons d'abord une crise morale, de pessimisme collectif. Il y a un sociologue qui s'appelle Jean Viard, qui résume, à mon avis, assez bien les choses, qui dit « La France, c'est simple, malheur public, bonheur privé ». Quand on interroge les Français, quand on vous interroge peut-être, sur votre morale, la plupart du temps, vous avez un moral plutôt positif à titre personnel. Mais dès qu'on interroge les Français sur la situation économique, ils sont plus déprimés que les Afghans. Ce qui évidemment est un peu troublant. Pourquoi ? Moi je crois qu'il y a plusieurs choses. Alors on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Je crois d'abord qu'il y a une sorte de culture collective qui est peut-être le point d'équilibre que j'appellerais médiatique et politique. La personne que l'on regarde quand on commente en France, par comparaison avec l'Allemagne, quand on commente l'actualité économique. En Allemagne, quand il y a des mesures qui sont prises, le point d'attention central des politiques économiques et de la politique, c'est, pour schématiser, l'ouvrier de l'automobile. La télé va interroger l'ouvrier de l'automobile à la sortie d'une usine à Munich. En France, le point d'équilibre central de l'attention politique, quelles mesures prend-on pour cette catégorie-là ? C'est plutôt l'employé territorial. Je n'ai rien contre l'employé territorial, qui font un travail absolument extraordinaire, mais le débat n'est pas exactement le même. Je pense que le débat en Allemagne, il a été depuis 15 ans sur la compétitivité. En France, il est sur le modèle social. On en pense qu'on veut, mais ça n'est pas exactement la même chose. Culture collective, culture, je dirais aussi, de l'affrontement. C'est bien connu, l'absence de corps intermédiaire solide. Moi, j'étais très frappé de voir que la semaine dernière, le gouvernement allemand, les industriels allemands et les syndicats allemands ont présenté ensemble au ministère des Finances une stratégie industrielle pour l'Allemagne pour les 20 ans qui viennent. Imaginez la CGT, Emmanuel Macron et Pierre Gattaz autour d'une table pour présenter ensemble la stratégie industrielle de la France. Voilà, même pas en rêve, comme disent les générations suivantes. Bon, si on regarde au-delà de la psychologie, je dirais qu'il y a un autre point qui me frappe, moi, c'est la complexité et la lenteur. J'aimerais vous donner un seul exemple très concret qu'on voit sur un graphique. Alors évidemment, il est caricatural, il n'est pas forcément significatif de tant de choses que ça, mais quand même, c'est une information de la Banque mondiale. Le temps, vous l'avez sous les yeux, je ne commente à peine, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations, les délais, les déclarations pour simplement construire un petit hangar ridicule au milieu d'un champ. C'est un exemple mineur qui est mis en avant par la Banque mondiale dans son rapport Doing Business, qui est sorti il y a quelques semaines. Bon, des exemples comme ça, il y en a des centaines. Et je crois que la culture de la complexité s'est accrue incroyablement ces 15-20 dernières années. Alors, on ne va pas résumer ça sous le théorème, le principe de précaution. Mais il y a quand même quelque chose de ça. Les couches se sont rajoutées à l'infini. Il y a un autre exemple bien connu pour construire le TGV Tour Bordeaux. Paris-Bordeaux, il a fallu, je crois, moins de 10 ans. On en est à 25 ans pour le Tour Bordeaux parce qu'il a fallu négocier dans le détail avec 57 collectivités territoriales les unes après les autres et évidemment un nombre d'associations et d'intervenants divers. Autre exemple encore, pour construire le métro à Paris, les quatre premières lignes au tournant du siècle, donc en plein cœur de Paris, il a fallu, je crois, moins de 10 ans. Je crois que le Grand Paris, le métro à 20 ou 30 km de Paris, qui doit faire un peu la grande boucle, on envisage les premières inaugurations des premiers bouts de ligne en 2035 ou 33, je ne sais plus très bien. Donc on voit bien que nous avons quand même une difficulté à réagir, à s'adapter. Troisième point, la psychologie, la complexité, et je vais dire les choses un peu brutalement, je crois que nous sommes handicapés, clairement, alors j'assume ma tête ou ma casquette plus libérale peut-être, par des niveaux de dépenses publiques particulièrement élevés et de prélèvements obligatoires. Vous allez dire, c'est une banalité, on l'entend tous les jours, je crois que nous voyageons en première classe avec un billet de seconde. Nous avons un niveau de dépenses publiques qui tourne autour de 57% aujourd'hui, qui est très très élevé. Alors, j'ai un petit graphique, évidemment, généralement, quand on le monte, on ne sait pas s'il fait rire, sourire ou inquiète. Le Fonds monétaire international a classé les pays pour le niveau de leurs dépenses publiques. Il y a 189 pays. Nous nous situons en 7e ou 8e, je ne sais plus, pour 7e ou 8e rang pour le niveau des dépenses publiques après, c'est ça le plus drôle au fond, après les îles Kiribati, Tuvalu, la Micronésie, les îles Marshall, le Lesotho et la France. Et grande victoire, nous avons dépassé cette année le Danemark et la Finlande. Ils sont juste derrière. Je crois que c'est une difficulté. Évidemment, tout n'est pas comparable. Évidemment, certaines dépenses aux États-Unis ou en Allemagne qui ont des niveaux de dépenses publiques collectives nettement inférieurs, les dépenses de retraite, de santé existent et elles sont prises en charge par les ménages. Évidemment. Mais ça n'est pas tout à fait la même chose d'avoir des systèmes d'assurance collectifs obligatoires et identiques pour tous et d'avoir une certaine liberté. Et d'ailleurs, on voit bien que les dépenses de santé ne sont pas exactement les mêmes selon les pays. Donc, je crois que c'est un souci. Quatrième point, je dirais que la microéconomie n'est pas assez valorisée en France. Je crois qu'on a tout essayé en France, mais on a assez peu essayé finalement le marché et la microéconomie. On parle, les débats de politique économique en France ont toujours lieu sur la macroéconomie. Les dépenses publiques, les impôts, la politique de relance, de rigueur, etc. Mais on s'intéresse assez peu finalement à la vie des entreprises. Ce qui se passe sur la pénibilité en ce moment est assez passionnant. Oui, il faut trouver des solutions pour que les salariés qui ont exercé, qui exercent et ont exercé des métiers pénibles puissent bénéficier plutôt que d'autres de systèmes de retraite. Mais doit-on le faire en mettant une usine à gaz absolument invraisemblable qui fait bondir les patrons de TPE de 10 à 50 salariés? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes un peu plus simples à bâtir? Mentionnons enfin, c'est-à-dire ce que je voudrais dire sur la macro et la microéconomie, on a une conception un peu hydraulique de l'économie, mais droite et gauche confondues. On appuie sur un bouton la relance et il en sort de la croissance à la fin. Je crois que c'est un tout petit peu plus sophistiqué, même si évidemment les politiques macroéconomiques comptent beaucoup. Nous avons certainement un problème politique qui est celui de l'épuisement d'un système. Alors, ce n'est pas la peine de brosser parce que vous avez dû consacrer des soirées entières ici à ces sujets de formation des élites, de niveau des élites politiques. Alors, je vais prendre une formule dont j'espère qu'elle ne sera pas prise au sens populiste. On dit qu'il y a une vingtaine d'années, les meilleurs de l'ENA entrer dans la fonction publique, on a tendance à dire aujourd'hui que ce sont les plus mauvais qui vont dans la fonction publique. C'est évidemment caricatural, mais il y a une différence quand même de niveau qui est assez impressionnante. Et puis bien sûr, l'incapacité de la droite et de la gauche à se mettre d'accord sur un certain corpus qui est lié à notre système électoral, à notre système très vertical politique. Comment en sortir ? La grande question, la première question, c'est les premières réponses qu'on peut apporter. Moi, je crois, alors ça fait un peu ça fait optimiste, mais je crois quand même aux vertus des technologies. Il y a un grand débat depuis quelques années pour savoir si la technologie se voit, les gains technologiques qu'on voit tous sur nos téléphones, etc., ça se voit dans la croissance. Moi, je ne vois qu'une chose, c'est que le nombre de pays pouvant contribuer au développement scientifique, aux découvertes médicales, scientifiques et autres, agroalimentaires, augmente de façon inouïe. Le nombre de chercheurs dans le monde a doublé en 5 ans. Il n'est pas imaginable que dans les années qui viennent, il n'y ait pas des découvertes scientifiques formidables. En tout cas, on peut faire cet espoir. J'ai juste amené un graphique qui est le dernier. Pensez, pour les plus anciens d'entre nous, à ce qu'était le téléphone en 1984. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Radiocom 2000 qui faisait 15 kilos et qu'on transportait. Regardez le chemin parcouru en 30 ans. Pensez au chemin qui sera parcouru dans les 15-20 prochaines années. On peut faire avoir un certain nombre d'espoirs. Nous avons la chance d'avoir une démographie positive, et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, je crois que nous avons un changement d'état d'esprit en France actuellement, qui se voit dans les tréfonds de la société française. Il y a une capacité de création, d'activité, d'initiative qui passe sous le radar médiatique et sous le radar politique, que je vois et qui m'impressionne. Nous avons quand même des grands succès mondiaux, rappelons-le, des grands groupes dans les transports, l'eau, l'aéronautique, le luxe, etc., etc., et la banque aussi, qui sont quand même des atouts formidables. Je crois aussi que nous avons, la France a un talent qu'elle devrait développer, et ça n'est pas une formule. Je pense que notre réservoir de croissance en France, pays contraint, qui doit préserver dans la mesure du possible son modèle social, c'est l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la majorité des créateurs d'entreprises, des patrons, des cadres d'entreprises sont aujourd'hui des hommes, et il y a des réserves fantastiques du côté de l'entrepreneuriat féminin. Je voyais là, il y a 10 jours, j'étais dans un jury qui récompensait des jeunes entrepreneurs de HEC, et les 2/3 étaient des jeunes femmes, et il y avait une vitalité. Je pense que si ça se prolonge sur l'ensemble de la société française, c'est un gisement inouï. Et donc, je pense que il faut tout faire pour faire sauter non seulement les plafonds de verre, mais les parois de verre qui enferment, entre guillemets, les femmes dans un certain nombre de filières. Parce que je dois le dire, les jeunes HEC qui présentaient des projets présentaient toutes des projets dans le domaine des services à la personne. Alors que les hommes, les jeunes hommes, les garçons, présentaient dans la technologie. C'était assez frappant de voir ça. Donc ça veut dire qu'il y a encore un certain nombre de conditionnements. Je ferme la parenthèse. Je crois qu'il y a des ressources immenses du côté des changements de fonctionnement, enfin de la façon dont la croissance fonctionne en France. Je pense que si notre croissance est faible, c'est aussi qu'un certain nombre de changements profonds passent sous le radar de l'INSEE. Le covoiturage, le copartage de logements, Airbnb et d'autres. Ça n'est pas simplement une mode, c'est un changement profond, structurel. Le Blablacar, que vous connaissez sans doute, le seul lieu où l'activité de Blablacar se voit dans l'économie, c'est la perte de chiffre d'affaires de la SNCF. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Alors on dit à l'INSEE, écoutez, il faudrait regarder ça d'un peu plus près, mais il y a des changements considérables, qui sont des façons de bien vivre ensemble sans consommer beaucoup. Alors, je ne suis pas partisan de la décroissance, mais je pense qu'il y a des changements à l'œuvre dans la société française. Voilà, j'ai été trop long, j'avais promis 20 minutes, j'en suis à 23h45, et donc c'est le moment de la conclusion qui va être extrêmement brève. C'est, moi j'ai finalement une angoisse. Une angoisse, elle concerne l'Europe. Moi, je me souviens très très bien que pour la génération de nos parents, l'Europe, c'était la paix. Pour ma génération, le projet européen, c'était l'euro. Vraiment. Bon, j'ai 50 ans, c'était l'euro. Et c'était la liberté de circulation, les étudiants. Je ne vois pas quel est le projet européen de mes enfants qui vivent à Singapour. Il y en a aujourd'hui, en ce moment, il y en a une qui est en Asie, l'autre qui est en Inde. Pour eux, l'Europe, quelle plus-value ? Ils ne sont pas contre, mais ils ne sont pas pour. Je reste persuadé que l'Europe est vraiment notre destin, notre histoire, vraiment en longue distance, Mais je ne sais pas ce qu'on vend aujourd'hui aux jeunes générations, et ça, c'est mon vrai, c'est ma vraie inquiétude. Et sur ce mot-là, je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Dominique Seux pour cette analyse sans complaisance, mais aussi avec tout ce qui est dit de ressources, voilà, de ressources possibles. Nous aurons l'occasion tout à l'heure, bien sûr, de revenir sur les différents points évoqués. Et donc maintenant, Xavier Thimbault, la même question. Où va l'économie française ?
Oui, où va l'économie française ? Merci, merci beaucoup de cette invitation à venir plancher devant vous sur cette question qui est quand même une question importante. Il faut absolument que je prenne le chronomètre de Dominique parce que 23 minutes, ça me paraît... Mais beaucoup. Comme tu as dit plein de choses avec lesquelles je suis d'accord, en fait, je ne vais pas les répéter et comme ça, on va gagner énormément de temps. Alors, j'ai plein de points de désaccord avec Dominique Seux, et donc je vais insister là-dessus. Alors, vous ne me prenez pas, c'est vraiment pas par esprit de contradiction, mais bon, voilà, pour ne pas vous ennuyer, il est tard, la journée a été longue, passons tout de suite aux choses sérieuses et je ne vais pas insister sur les points avec lesquels je suis d'accord et avec lesquels Dominique a été très brillant. Alors, déjà, levons un malentendu. Oui, Blablacar, ce n'est pas compté dans la croissance. Mais ce n'est pas ça le problème de la France. Le problème de la France, ce n'est pas une faible croissance à cause de Blablacar. Le problème de la France aujourd'hui, c'est le taux de chômage, par exemple, qu'on est en train d'expérimenter. Et ça, ça n'a rien à voir avec Blablacar. Parce que si Blablacar était le modèle de l'économie d'aujourd'hui... Très bien, les gens seraient contents, l'INSEE ne mesurerait pas les choses correctement, on aurait une faible croissance, mais au fond, on aurait plein d'activités. Et notre problème, ce n'est pas celui-là, notre problème, c'est le chômage. Et le chômage, d'ailleurs, Dominique, permets-moi aussi de rebondir sur un point, le chômage, ce n'est pas notre employé de la fonction publique territoriale qui est concerné par le chômage. La France n'est pas un pays d'employés territoriaux... qui vivent au crochet d'on ne sait pas trop qui, d'entrepreneurs féminins ou masculins. Non, le chômage touche une frange de la population qui est sur le marché du travail, qui n'a pas la sécurité de l'emploi et qui est confrontée à cette crise. Donc cette crise est quelque chose de sérieux, de très lourd, qui a des conséquences extrêmement importantes sur des jeunes, sur des seniors, sur des gens qui ont des familles et qui se retrouvent, vous voyez, dans cette société qu'on connaît tous, cette société où on a besoin du travail pour exister, enfin exister, c'est-à-dire payer notre part à la société. On ne peut pas vivre dans cette société sans travailler. On n'a pas de place dans cette société si on ne travaille pas. Et donc, le chômage signifie cette perte de contact avec la société. Donc, voilà, le problème auquel on fait face. Alors, on n'a pas que ce problème-là. Dominique, vous en a cité plein. Avec lesquels on peut être d'accord. Bon, alors, on va les résumer. Le chômage, pas beaucoup de croissance, déficit public, ça, c'est pour certains, c'est très angoissant, avec ces mots qui reviennent souvent, on vit à crédit, ce déficit public va signifier qu'à un moment ou un autre, les choses vont s'effondrer. En plus, ça fait longtemps. En fait, ça fait presque depuis tout le temps qu'on vit à crédit de cette façon-là. Donc, il y a quelque chose à la fois d'anxiogène, mais aussi de très culpabilisant. Et donc, quand on mélange angoisse et culpabilité, ça fait un mélange qui peut être détonnant. Et puis, on peut aussi aller dans quelques autres éléments. Notre balance commerciale, la compétitivité, la désindustrialisation. Alors, la désindustrialisation, enfin, Dominique se prend un peu à son propre piège. Blablacar, Airbnb, tout ça, c'est pas industriel, c'est des activités qui se développent. Mais en fait, votre téléphone, Internet... les services à la personne, tout ça, ce n'est pas de l'industrie. Partout dans le monde, en fait, on voit une décroissance de l'industrie, un décrochage de l'industrie. En fait, on parle beaucoup de l'industrie, mais l'industrie dans le monde, c'est 20% de l'activité. Moins de 20% même dans le monde en moyenne, 18% dans les pays développés. La France, c'est moins. Et ça a plus baissé. Mais en fait, ça a une trajectoire très parallèle à ce qui se passe dans d'autres pays. Même en Allemagne, la part de l'industrie a baissé. Donc, OK, l'industrie, c'est important. Ça peut nous signifier des choses, relativement en tout cas à d'autres pays, mais ne rêvons pas, on ne peut pas construire notre modèle économique sur moins d'un cinquième aujourd'hui de ce qui occupe les gens, de ce qui les motive, de là où ils innovent, puisque les innovations ne sont plus uniquement dans l'industrie, mais dans plein d'autres secteurs. Et donc, il faut essayer de se faire un peu une vision. En fait, il y a une question à laquelle il faut répondre, et c'est une question qui est difficile. Cette question, elle est de savoir, est-ce que aujourd'hui on est dans la crise ? Est-ce que cette crise, c'est le révélateur de tout un tas d'insuffisances qu'on a accumulées au fil des ans, sans trop les voir, en vivant un peu amorti comme dans le coton ? Et puis, brusquement, à partir de 2008, les choses se sont, comme dirait Warren Buffett, la marée s'est retirée. Et on a vu ceux qui étaient nus ou qui avaient encore un maillot de bain. Voilà, donc la crise de 2008, c'est ça, c'est ce moment-là où la marée se retire et où on voit qui est habillé et qui ne l'est pas. Donc, c'est peu ou prou ce que Dominique nous a dit. Je pense que c'est une analyse avec laquelle il serait assez d'accord. Bon, et donc, derrière cette analyse, il y a l'idée que, les gars, il faut se retrousser les manches. Tout n'est pas perdu, parce qu'il ne faut pas être... faut pas désespérer non plus la France et faire en sorte qu'ils partent tous à Singapour. Ben, je pense que tu as fait un travail d'éducation remarquable, hein, puisque tu as convaincu tes enfants...
Non, mais ils n'y habitent pas, hein, ils sont étudiants.
Ils sont étudiants, ah oui, mais alors, bon, on va en parler, parce que ça, c'est différent. C'est complètement différent, ça, c'est même extrêmement important. Mais, donc, pour pas que tout le monde parte à Singapour ou à Hong Kong, il faut quand même expliquer qu'on peut s'en sortir. Donc, retroussons les manches, etc. Mais il y a une autre analyse qu'on peut faire, et c'est celle-là que j'ai essayé de développer, c'est de dire, bon, ok, on a des problèmes. Nous ne nous voilons pas la face, la compétitivité, l'industrie, l'éducation. En fait, la liste, elle est longue, mais longue, longue, longue. Mais qui n'a pas de problème ? Par contre, on est dans une situation particulière aujourd'hui, qui est cette situation qu'on a héritée de la crise, qui s'est réalisée avec la crise, qui a, en fait, surtout secoué une chose. Ce n'est pas tellement le modèle français, mais qui a surtout secoué une chose, c'est le modèle européen. Dominique a posé une excellente question, et je pense que il faut absolument qu'on soit capable d'y répondre, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Europe offre à notre jeunesse ? C'est quoi cette idée ? Ça sert à quoi ? Voilà. Et je pense qu'il faut aller même un peu plus loin que cette question. Ce n'est pas simplement une question d'apporter du rêve. On peut apporter des réponses à quoi sert l'Europe. À mon avis, des réponses extrêmement fortes. Mais il faut aller un peu plus loin. C'est qu'il ne faut pas que ces réponses, même très fortes, masquent une construction qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal. Or, aujourd'hui, dans cette crise, on peut se poser la question de savoir si l'Europe fonctionne bien ou mal. Et même si elle a de magnifiques atours et même si elle a de magnifiques projets, ben, il faut que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, le prix à payer pour ne pas réaliser ces projets est extrêmement élevé. Bon, alors, donc je pense que cette crise... J'ai essayé de vous le montrer, elle secoue plus l'Europe dans sa construction, dans ses inefficacités. Et les questions qui se posent à nous, devant nous, c'est en fait deux questions qui sont un tout petit peu différentes de celles de Dominique. C'est pas quelles sont toutes les mauvaises choses qu'on a accumulées qu'il faut qu'on répare vite parce que le monde ne nous attend pas. C'est comment faire pour que l'Europe fonctionne, c'est-à-dire pourquoi elle n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui peut nous arriver de pire. Et quelle est notre part, nous Français, dans cette Europe. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans cette Europe pour qu'elle puisse fonctionner. Et après, ben oui, en fait, on est français, mais on est aussi un peu européen. Donc, l'un ira avec l'autre. Enfin, tu as parlé justement, et tu as dit, c'est fini cette époque où les pays expriment leur puissance. Oui, bien sûr, elle est terminée. Et heureusement, elle est terminée, parce que cette époque où les pays, même petits, pouvaient exprimer leur puissance, c'est celle qui ont conduit, en fait, par exemple, à deux guerres mondiales. Des guerres de la puissance. Des guerres de pays qui se voyaient en train de maîtriser le monde et d'imposer au monde leur modèle. La question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est plutôt de faire en sorte que des individus puissent vivre en ayant accès à des droits fondamentaux, en ayant accès à une certaine sécurité, en ayant accès à un pacte intergénérationnel, celui dans lequel on éduque les enfants, mais aussi où tout au long de sa vie active, on va payer des cotisations sociales pour les seniors. Et qu'on n'oublie jamais que ceux qui sont jeunes un jour et qui vont recevoir de l'éducation seront un jour actifs, payeront des cotisations, et un jour plus tard seront à la retraite et recevront des prestations de retraite. Et c'est ce pacte intergénérationnel, celui qui il y a très longtemps était en fait inclus dans la famille, qu'il nous s'agit de porter et de préserver. Il est extrêmement important parce que c'est un facteur d'émancipation. Si vous ne dépendez plus de vos parents pour votre éducation et de vos enfants pour assurer votre santé et votre niveau de vie quand vous êtes âgé, tout le monde peut vivre en bonne intelligence et sans dépendance. Vous ne pourrez jamais dire à vos enfants « tu me dois ce que tu es » et vos enfants ne pourront jamais vous dire « tu es une charge pour moi ». Ces éléments-là sont extrêmement importants. Et ces éléments-là doivent être portés par notre modèle social. Le modèle social, ce n'est pas, un truc, c'est pas un objet de luxe, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut plus se permettre. C'est le fondement de nos sociétés, c'est ce pacte intergénérationnel. Alors qu'on le rediscute, qu'on le rééquilibre, qu'on demande à des énarques, à des polytechniciens de nous le bricoler pour qu'il fonctionne, oui, bien sûr, tout ça est très technique, etc. Mais le fondement de tout ça, évidemment, il ne faut pas le remettre en cause. Bon. Alors, c'est quoi la crise dans laquelle on est? Si ce n'est pas une crise française et c'est une crise européenne. Ben, justement, je vais vous montrer quelques graphiques parce qu'il y a quand même des choses... Je vais vous les montrer dans le désordre, mais j'ai quand même vous les montrer. Il y a quand même des choses qui sont assez percutantes. Donc, alors, pas celui-là, le suivant, le suivant, le suivant. Voilà, on va regarder celui-là. Celui-là, c'est une comparaison, c'est les mêmes chiffres en fait que ceux que vous a montré Dominique Seux. C'est une comparaison entre l'Europe et les États-Unis. Donc, en gris, l'Europe, la zone euro, en vert, les États-Unis. Sur le haut, bah, vous avez l'Europe et les États-Unis dans la crise. Le graphique commence en 2007. Qu'est-ce qui se passe en 2007? Bah, vous voyez, les deux économies plongent en même temps et autant. Alors on pourrait regarder en PIB par tête, ça donnerait une image un tout petit peu différente, Dominique a raison, et c'est sans doute une meilleure image. Mais là, je n'ai pas résisté au fait qu'il y avait cette coïncidence parfaite entre les deux courbes jusqu'en 4 ans après le début de la crise, donc jusqu'en 2011. Alors, regardez, il y a quand même un passage très important et très intéressant dans ce début de crise, c'est bon, les deux économies plongent et les deux économies rebondissent. L'Europe, la vieille Europe, celle qui n'est pas capable de croître, ben, elle a cru aussi vite que les États-Unis. Et en fait, si on regarde la France, Dominique vous l'a montré dans un de ses graphiques, mais si on regardait la France, on verrait que dans cette période-là, dans cette année et demie-là, qui se termine en 2009 et qui commence en 2009 et qui se termine au milieu de l'année 2011, pendant cette période-là, la croissance française a été élevée. Plus de 2%. Aujourd'hui, quand on dit ça, les gens vous disent c'est pas possible, la France n'a pas connu de croissance depuis 10 ans. Bah si. Dans cette période-là, la France avait une croissance. Alors, oui, la France a plein de problèmes, un marché du travail rigide, tout un tas de questions qui se posent autour de ça, mais malgré ça, elle a quand même connu une période de croissance assez forte. Et puis regardez ce qui se passe en 2012. Alors en 2012, mauvaise période pour l'Europe. Crise des dettes souveraines en zone euro. La Grèce est au bord de la faillite, les Allemands et d'autres veulent qu'elle sorte, en tout cas ne sont pas prêts à payer pour la faute grecque. Contagion à l'Espagne, à l'Italie, les taux d'intérêt montent. Bon, ceux de la France baissent, mais contagion quand même. Et paralysie totale de l'Europe. L'Espagne, l'Italie se retrouvent face au marché financier, devoir financer des dettes importantes à des taux d'intérêt très élevés. Et se disent, enfin d'ailleurs tous leurs pairs européens leur disent, bah pour s'en sortir, ce qu'il faut, c'est faire des efforts budgétaires considérables, et sinon les marchés financiers vont vous étriller. D'ailleurs, ils vous étrillent, et donc faites des efforts, bah oui, vous n'avez plus les moyens de votre retraite, diminuez le SMIC, oui, c'est ce qu'on a appelé l'austérité. Donc mettez en place l'austérité, ça va convaincre les marchés que vous pouvez vous en sortir. En fait, ces pays-là l'ont fait. La France, dans une certaine mesure, l'a fait aussi. Ça n'a convaincu personne. Pourquoi ça n'a convaincu personne? Mais parce qu'on ne pilote pas une économie comme on gère son budget d'un ménage. Quand vous, ménage, vous avez une baisse de vos revenus, il n'y a qu'une seule chose à faire, qui est évidente, c'est qu'il faut baisser vos dépenses. Vous pouvez emprunter un peu d'argent à la banque, mais vous savez faire vos comptes, et donc vous savez qu'un jour ou l'autre, il faudra payer cet argent. Bon, ok. Quand on est quand on raisonne à l'échelle d'un pays, les choses sont un petit peu différentes. Pourquoi elles sont un peu différentes? Parce que dans un pays, quand vous coupez vos dépenses, c'est quoi couper vos dépenses? C'est le salaire que vous donnez à vos fonctionnaires, c'est les prestations sociales que vous donnez aux seniors, c'est l'éducation, c'est les impôts que vous faites payer aux actifs. Mais ça, ça a une conséquence sur le fonctionnement de l'économie. Ça a une conséquence sur l'économie. Ça va mettre moins de croissance, voire même faire une récession. Ah, c'est ce que Dominique appelait un peu ménèchement l'aspect hydraulique des choses. Oui, mais bon, c'est pas parce qu'on est en train de se noyer dans une piscine qu'on doit dire que c'est la faute à des tuyaux. Oui, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses qui s'imposent à nous. Voilà, c'est peut-être un peu caricatural de dire que c'est hydraulique, mais en même temps, il y a une réalité. Et cette réalité, elle nous revient dure quand on réfléchit à l'échelle d'un pays. Cette baisse de l'activité, cette baisse de la croissance, elle a comme conséquence que ça provoque une baisse de vos revenus. Alors, le schéma, il est assez simple. Vous avez un déficit. Vous dites les marchés financiers m'étrient parce que j'ai un déficit. Donc, il faut que je réduise mes dépenses. Mais vous réduisez vos dépenses, l'activité du pays réduit. Vous avez moins de recettes. L'effort que vous avez fait pour réduire votre déficit, il est amputé en partie par le moins de recettes qui est la conséquence de votre effort. Et en fait, quand vous êtes dans la situation où se retrouvaient l'Espagne ou la Grèce ou l'Italie, vous vous retrouvez dans une situation où l'effet est tellement important, que la réduction du déficit que vous espérez, elle est plus qu'annulée par les conséquences. Et là, les marchés financiers vous disent, vous avez du déficit, donc vous accumulez de la dette, vous n'allez pas vous en sortir, et si vous essayez de le réduire, vous avez encore plus de déficit, et donc c'est sûr, vous n'allez pas vous en sortir. Et les marchés financiers vous font payer de plus en plus cher, et vous ne pouvez pas vous en sortir, parce qu'il faut payer ces charges d'intérêt de plus en plus. Ok ? Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe ? Les marchés financiers, ils ont de l'argent à placer. Il faut bien qu'ils le mettent quelque part. Où est-ce qu'ils le mettent ? Là, en l'occurrence, ils l'ont mis sur la dette française et sur la dette allemande, dont les taux d'intérêt ont baissé. Comment on s'est sorti de cette situation ? On s'est sorti en disant, si on inverse pas le rapport de force avec les marchés financiers, si on leur dit pas, vous, marchés financiers, vous avez de l'argent à placer, et si vous devez choisir entre l'Italie et la France, vous allez toujours choisir la France et l'Italie va se retrouver étriée. Mais si je vous dis, vous n'avez plus le choix entre l'Italie et la France, vous avez de l'argent à placer et maintenant, on va laisser la France et l'Italie s'occuper de se répartir la charge et de gérer le risque du déficit. C'est ce qui a été fait en 2012. C'est la façon dont on est sorti de la crise. La Banque Centrale Européenne a dit, Mario Draghi a dit à Londres, « Whatever it takes pour sauver l'euro, pour empêcher son implosion, pour le faire fonctionner. » Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de payer, on peut remettre le graphique, mais c'est ça qu'on est en train de payer, c'est le temps qu'il a fallu pour arriver à se rendre compte qu'on était dans le même bateau et que le bateau pouvait couler si simplement on manquait de compréhension au sens comprendre comment fonctionne l'économie européenne, comment les économies sont imbriquées, comment elles sont dépendantes et quel est le rapport de force qu'il faut installer avec les marchés financiers. Et si on le fait pas, l'économie européenne, elle peut couler. Et c'est ça qui a expliqué cette divergence entre l'Europe et les États-Unis. Alors, remettons le graphique, parce qu'il y a une conséquence très intéressante dans ce graphique, par ailleurs. En dessous, vous avez l'évolution de la dette publique. Alors, toujours en gris ou en bleu, la zone euro, et en vert, les États-Unis. Vous voyez que, dans ce schéma, les États-Unis, ils ont, en fait, usé d'un rapport de force de fait avec les marchés financiers, en disant, OK, vous ne voulez plus nous prêter, mais où est-ce que vous allez mettre votre argent ? Vous ne pouvez pas ne pas le mettre. En fait, même le gouvernement américain, le Trésor américain, la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale américaine, tout ça sont les garants du système financier. C'est eux qui vont sauver les banques, etc. Donc, si vous arrêtez de nous prêter, nous, on ne peut pas soutenir les banques, mais les banques, c'est vous, donc tout s'effondre. Donc, vous avez besoin de nous, on a besoin de vous, et on va gagner du temps. On va gagner du temps pour résoudre cette crise, et on va essayer de conserver un peu de croissance, parce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est de réduire notre dette publique, donc il faut réduire notre déficit, mais il ne faut pas perdre trop d'activité. En Europe, on n'a pas fait ça, on a dit qu'il faut qu'on réduise la dette le plus vite possible. Vous voyez, on l'a réduit plus vite. On a 10 points de moins de dette publique qu'aux États-Unis. Elle a augmenté de 30 points en Europe, de 40 points aux États-Unis. 10 points de moins. Mais ces 10 points de moins nous ont coûté 6 points de chômage. Alors, quand je vous dis l'Europe ne fonctionne pas, oui, c'est ça. Oui, il y a toujours les problèmes structurels, ça, ceux-là, ils sont importants, il ne faut pas les perdre de vue, ils sont décisifs. Mais il y a un problème qui est là. Et pour que l'Europe fonctionne, il faut qu'on arrive à comprendre cette logique. Il faut qu'on arrête de gérer l'Europe comme un ménage ou comme une copropriété de ménage qui se dispute la question de savoir à qui le déficit, à qui pas le déficit. Et je ne dis pas qu'il faut faire du déficit éternellement. Je dis, quand on veut réduire son déficit et qu'on a bien compris comment ça marchait, ben, on a compris une chose, c'est qu'on ne peut pas le réduire d'un coup tout de suite. Il faut du temps. Comment on fait pour avoir du temps ? Ben, il faut être capable d'acheter du temps, c'est-à-dire d'emprunter à un taux qui ne soit pas très élevé. Aujourd'hui, la France emprunte à 1%, moins de 1%. D'accord ? Quand on emprunte à moins de 1%, et quand on emprunte à moins de 1%, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. C'est aujourd'hui, vous voyez par exemple dans le journal, on lisait, dans les échos, on lisait, la France va être parmi les pays européens, celui à emprunter le plus. La France va emprunter 200 milliards l'année prochaine. La France a 2000 milliards de dettes, 200 milliards, c'est un dixième de sa dette. C'est-à-dire la maturité de la dette française, c'est 10 ans. Mais cette année, la France va emprunter à 1%, moins de 1%. Ça veut dire que les 200 milliards qui vont être empruntés, qui vont être dus dans 10 ans, on va devoir payer un taux d'intérêt de 1% dessus. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on n'emprunte que 200 milliards ? Mais oui, ils sont à 1%. Il y a des gens qui sont prêts à prêter à la France pour 10 ans à 1%, qui ne demandent pas plus de taux d'intérêt que 1%. Oui, avec ça, on peut acheter du temps. On a 10 ans devant nous pour résoudre notre problème. Si les taux d'intérêt augmentent, ce n'est pas grave, puisqu'on a emprunté à 10 ans. Donc, pendant 10 ans, on va payer ces 1%. D'accord ? Voilà. Achetez le temps pour sortir la zone euro de sa crise et aussi s'occuper des problèmes de fond. Il ne faut jamais perdre de vue, encore une fois, les problèmes de fond. Je vais vous montrer un dernier graphique. Après, j'arrêterai. Alors, on va revenir en arrière. Encore en arrière. Voilà, celui-là. Bon, c'est un de mes graphiques préférés. Il n'est pas très simple à lire, mais vous allez voir, en fait, il est assez édifiant. Donc, Dominique Seux nous a montré les classements du FMI. On est entre, je ne sais plus quoi, les îles Viatuatu et le Zululand en termes de dépenses publiques. Bon, je ne sais pas très bien ce que veut dire ce classement du FMI. Les pays africains sont des pays dans lesquels la dépense publique est la plus faible. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de retraite. Par contre, il y a de la misère, il y a de l'illettrisme et des maladies épidémiques qui se répandent. Donc, mettre la France dans ce paquet-là me paraît assez bizarre. On est évidemment un pays dans lequel il y a beaucoup de dépenses publiques et collectives. Alors, qu'est-ce que vous raconte ce graphique ? Chaque bulle, c'est un pays. Plus la bulle est grosse, plus c'est un gros pays. Donc, la plus grosse bulle à chaque fois, c'est les États-Unis. La France, c'est une bulle un peu plus marquée, de taille intermédiaire. Ça, c'est notre destin de pays moyen. Donc, vous avez par exemple un tas de bulles en bas du graphique, c'est en vert. Ça, c'est la dépense d'éducation. Alors, sur l'axe des Y, il y a la dépense d'éducation en point de PIB. Donc, ce que vous dit ce graphique, c'est tous les pays ont des dépenses d'éducation, tous les pays qui sont sur ce graphique, qui sont plutôt des pays développés, et elles sont assez proches les unes des autres. Alors, il n'y a pas de miracle, tous les pays veulent éduquer leur population et ont à peu près la même contrainte. Et la France n'a pas un niveau très différent. En fait, vous voyez, la France est pratiquement au milieu du paquet. Après, sur l'axe des Y, j'ai mis comment a évolué cette dépense d'éducation au cours des 5 dernières années. Alors, en fait, vous voyez, la dépense d'éducation, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué au cours des 5 dernières années. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire, dans l'ensemble des pays développés, malgré la crise, on n'a pas trop touché aux dépenses d'éducation. En fait, en France, on les a un tout petit peu augmentées. Mais qui peut contester l'utilité de ça ? Bon, ok. Passons au bleu. Le bleu, c'est ce qu'on appelle les dépenses publiques régaliennes. Donc, c'est police, administration, etc., etc. Regardez où se trouve la France. La France se trouve mélangée avec les États-Unis, dans le bord extérieur de la grosse bulle États-Unis. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Alors, ce que nous dit ce graphique, c'est, en fait, quand on regarde ces dépenses régaliennes, vous voyez, c'est un petit peu plus dispersé que les dépenses d'éducation. Donc, il y a des pays qui font des choix assez différents, d'une part, et puis sur l'axe des Y, c'est aussi un peu plus dispersé. En fait, la France fait partie, disons, plutôt dans la moyenne supérieure sur les dépenses régaliennes, avec une petite tendance à la diminution de ces dépenses régaliennes. Bon, il n'y a pas de crise de la dépense publique. Alors malheureusement, ce que le graphique ne vous raconte pas, c'est est-ce que cette dépense publique est efficace ? Mais c'est sûr, vous pouvez dire, oui, mais là-dedans, vous avez mis la police. Mais que fait la police ? Justement. Donc, ça serait intéressant. Mais, bon, malheureusement, on ne peut pas, sur ce graphique, le faire. Alors, par contre, Je vais vous inviter à regarder maintenant la partie orange. Vous voyez, la partie orange qui est la plus dispersée. C'est quoi cette partie orange ? Ben, c'est deux dépenses publiques qui sont appelées des dépenses publiques de protection sociale, avec d'un côté donc, la protection sociale et de l'autre côté les dépenses de santé. Hôpital, principalement. Et puis protection sociale, donc c'est tout ce qui est retraite, assurance chômage, assurance famille, etc. Et aussi la partie santé, mais la partie santé, remboursement de vos dépenses chez le médecin. D'accord ? Donc, il y a une partie hôpital et une partie remboursement. Là, tout est mélangé. Et vous voyez quoi ? Ben, vous voyez qu'il y a des différences énormes entre les pays. Les pays sont très dispersés. Et en fait, la France se trouve tout en haut. Donc, si on a beaucoup de dépenses publiques, c'est parce qu'on dépense beaucoup en santé et en protection sociale. En tout cas, de façon collective. Et puis, si vous regardez sur l'axe des Y, vous voyez que toutes les bulles, ou presque toutes les bulles, il n'y a qu'une bulle, en fait, qui est significativement à gauche, c'est l'Allemagne, mais toutes les bulles sont à droite du graphique. Ça veut dire que dans tous les pays, ça augmente. Alors, pourquoi ça augmente ? Ben, il n'y a pas de mystère. Ça augmente principalement parce que la composante santé augmente, et cette composante, elle augmente principalement à cause du vieillissement. Bon, soyons raisonnables, on peut s'en plaindre, on peut dire c'est embêtant, les gens vieillissent et tout ça, mais ça fait partie de ce pacte intergénérationnel. Je veux dire, vous avez travaillé, vous avez cotisé, payé des impôts, et aujourd'hui, si vous êtes malade, il faut vous soigner, quel que soit votre âge. C'est ça le pacte intergénérationnel. Ce pacte a été fondé il y a longtemps. Et il n'a pas de raison d'être mis en cause parce qu'on traverse la crise. Surtout pas. Alors, ok, en France ça augmente, mais ça augmente pas beaucoup plus que dans les autres pays. En fait, il y a des pays où ça augmente plus qu'en France. Et pourquoi la France se trouve tout en haut ? Alors, c'est là où tout le paradoxe français. Vous voyez, parce que si on a beaucoup de dépenses publiques, si on est classé parmi les premiers, si on a dépassé le Danemark, etc., c'est parce que c'est à cause des bulles oranges. Sur les bulles vertes, sur les bulles bleues, on est comme les autres. Donc, si on est haut dans ces dépenses publiques, le vrai paradoxe, c'est qu'on est haut alors que, par exemple, on n'est pas un des pays qui dépense le plus en santé au total. Le pays au monde qui dépense le plus en santé, c'est les États-Unis. Les États-Unis dépensent deux fois plus en santé que la France. Et comment ça se fait, ça ? On a une dépense publique en santé qui est la plus élevée du monde, mais par contre, on n'a pas la dépense de santé la plus élevée du monde. Bah, parce que la dépense privée de santé, en France, est plutôt faible. Et si elle est très élevée, la dépense aux États-Unis, c'est que la dépense privée est très élevée. Mais vous voyez, le paradoxe, c'est un demi-paradoxe, en fait. C'est que si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de dépenses de santé, paradoxalement, il faut que cette dépense de santé soit publique. Quel est le pays, parmi les pays développés, qui dépense le moins en dépenses de santé ? C'est le Royaume-Uni. Et c'est le pays qui a le système de santé le plus développé. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont médecins ou ont des amis médecins, mais le Royaume-Uni, pour un médecin, c'est un peu le purgatoire. Les États-Unis, c'est le paradis. La France, c'est pas loin d'être le paradis, mais le Royaume-Uni, c'est vraiment le purgatoire. Voire l'enfer, même. Pourquoi ? Parce que, en fait, un médecin au Royaume-Uni, il est fonctionnaire. Et il est rémunéré comme un fonctionnaire. Un médecin en France, ben, il n'est pas fonctionnaire. En fait, il n'est pas fonctionnaire. Sauf qu'il vit d'un prélèvement obligatoire qu'on lui redistribue. Il dit « je suis un médecin libéral ». Mais il ne fait pas de la publicité, il ne va pas chercher ses malades, et ce n'est pas ses malades qui payent ses consultations. Ce sont vos mutuelles et votre sécurité sociale qui payent. Mais par contre, il bénéficie d'une rémunération qui est beaucoup plus avantageuse que celle de son collègue anglais. En fait, la différence de dépenses publiques, la différence de dépenses de santé entre le Royaume-Uni et la France, c'est la rémunération des médecins. Le surplus de rémunération des médecins en France. Et la différence de rémunération du secteur de santé aux États-Unis, c'est l'explosion du système privé avec non seulement les médecins, mais aussi d'autres acteurs, comme les centres de soins, les mutuelles, qui sont très rémunérés et qui coûtent très très cher aux gens qui veulent se faire soigner. Donc, paradoxalement, notre système de dépenses publiques élevées correspond à un niveau de dépenses médicales relativement faible. Alors, il ne faut pas se tromper sur les conséquences que ça a. Parce que Dominique Seux vous a dit, oui, il faut réduire la dépense publique. Mais qu'est-ce qui va se passer si on veut réduire la dépense publique ? Les bulles bleues, les bulles vertes, c'est pas possible d'y toucher, c'est très compliqué, ça pose des problèmes d'organisation. En fait, la seule marge de manœuvre qu'on a, c'est le orange. Et comment on fait pour réduire le orange? En fait, on ne réduit pas, on privatise. On va donner à AXA la gestion de l'assurance santé. Et qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? On va perdre le contrôle sur le niveau de la dépense publique. Les frais que vous payez de façon médicale, qui sont contrôlés par la Sécurité sociale, le seront moins, avec une possibilité d'explosion. Et donc, à vouloir réduire la dépense publique, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va vous appauvrir. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur ce choix. Je suis volontairement un tout petit peu provocateur, mais il ne faut pas se tromper sur ce choix. La question de la dépense publique, c'est quelque chose qui revient très souvent, mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce qui s'est passé dans la crise pour la zone euro, pour la France, qui révèle des problèmes très profonds, des problèmes dans la gouvernance européenne, dans la façon dont on gère la monnaie, dans la façon dont on gère les budgets européens, la façon dont on gère aussi le coût relatif des différents pays de la zone euro. Un problème qui n'est pas simple, y compris pour la France, et qui peut avoir des conséquences demain qui sont très importantes, et qui a trait à notre désindustrialisation et à notre perte de compétitivité. Ça, à mon sens, ce sont les vrais problèmes. C'est des problèmes qui nous renvoient à la construction européenne, à comment elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne mal. Pourquoi elle fonctionne plus mal que l'économie américaine? Et il ne faut pas se focaliser sur des faux problèmes, parce que derrière ces faux problèmes, on risque de démonter ce qui peut être finalement fait partie des choses qui fonctionnent, ou en tout cas qui méritent un examen un tout petit peu plus attentif, pour être sûr qu'on ne démonte pas quelque chose de positif.
Voilà.
Merci.
Voilà, merci pour ce
débat lancé
qui nous met au cœur des politiques publiques. Je me tourne vers Dominique Seux, une réaction.
Alors, une réaction très, très courte, parce que je ne veux pas avoir le dernier la parole, ce serait plusieurs petits points de désaccord. D'abord, je pense quand même que les politiques nationales ont leur impact et leur influence. La retraite, elle est à 60, 62, 65 ans. Elle n'est pas partout au même âge, et donc il y a des décisions publiques. Et j'imagine que peut-être au moment du débat sur la retraite, dû au passage des 60 à 62 ans, nous n'étions peut-être pas d'accord sur la nécessité de le faire. Le niveau des dépenses publiques, c'est d'abord ce genre de choix, et on retrouve les mêmes sur les prestations familiales. Je pense que le choix de la mise en condition de ressources a été un mauvais choix, mais la fiscalisation aurait été un bon choix, je le pense et je l'assume. Et on a des débats sur l'assurance santé, donc des différences. Chaque pays garde son autonomie. La Suède, qui avait les mêmes problèmes que nous au début des années 90, a baissé ses dépenses publiques et s'en est pas porté beaucoup plus mal. Enfin, s'en est même pas porté plus mal. Elle a conservé un taux de croissance élevé et a redynamisé son économie. Je pense qu'à 57%, nous sommes à un niveau excessif. Mais le débat intéressant, à mon avis, est d'abord sur le logement, c'est difficile de dire que la crise du logement que nous traversons, c'est lié aux politiques européennes, à l'austérité générale.
Non, c'est des choses internes. Je suis d'accord.
Ne sous-estimons pas
les problèmes
parce
internes.
Que ça nous arrange, parce que c'est la pente naturelle depuis tant d'années, ne sous-estimons pas les difficultés internes. Mais le vrai débat, et Xavier a tout à fait raison, le vrai débat, c'est sur les politiques européennes. L'Europe est très critiquée pour les politiques d'austérité qu'elle a menées. Et c'est vrai que les résultats, les courbes sont frappantes, ne nous incitent pas à l'indulgence. Rappelons quand même trois choses. Un, l'euro est très jeune. C'est un adolescent. Il a 15 ans. Que les dirigeants européens de pays si divers, de cultures si diverses, n'aient pas su bien ou de manière optimale réagir ensemble pour une monnaie qui a 15 ans est assez logique. Deuxième point, que l'austérité ait été appliquée trop rapidement dans des pays comme l'Espagne, par exemple, elle aurait dû être sans doute un peu plus étalée en Grèce, en Irlande, en Espagne. Mais on ne peut pas dire, à mon avis, enfin je crois que dans ces pays-là, qui avaient construit des bulles dans la fonction publique, dans l'immobilier, dans le crédit, il y a un temps de la déflation, là c'est difficile à dire, mais qui est nécessaire. Sinon, on n'arrivera jamais à ce que les économies se ressemblent. Alors, il faut gérer socialement pour que ça se passe le mieux possible. Mais on ne peut pas. L'Espagne, 1,6 million de salariés dans le secteur de l'immobilier en 2006. En 2013, je crois, 200 000, quelque chose comme ça. On ne construisait plus rien. Eh bien, c'est une période d'adaptation qui est douloureuse. Il faut que ça se passe le mieux possible, mais difficile de faire autrement. Alors, est-ce que les prix Nobel américains, dernier point, troisième point, les prix Nobel américains ont une faculté formidable pour critiquer, que ce soit Joseph Stiglitz et surtout Paul Krugman, et pour pousser dans le sens des thèses françaises et dire « allons-y, endettons-nous un peu plus », et il n'aurait pas fallu faire ces politiques d'austérité. Si nous sommes économiquement en difficulté et impuissants, c'est parce que nous ne sommes pas politiquement d'accord en Europe. On ne va pas mettre un pistolet sur la tempe aux Allemands pour qu'ils acceptent ou qu'ils aient accepté en 2011 et 2012 de partager les dettes. Nous n'avons pas la même culture. Bon, on peut le regretter, on peut dire qu'on aurait dû faire différemment, on peut dire qu'il aurait fallu avoir des eurobonds pour éviter ce qui a été fait, mais voilà, les Allemands regardent les autres pays et disent « vous êtes bien gentils, mais nous, ça fait 10 ans qu'on a fait ce qu'il fallait faire, etc. et vous êtes partis dans le mur ». Donc, voilà, petit à petit, ça se rapproche. Les Allemands ont fait des pas assez importants, quand même, parce qu'évidemment, l'Allemagne, c'est quand même un pays qui a une croissance, enfin, qui a quand même un taux de chômage, on peut en discuter à l'infini, mais qui a quand même un taux de chômage compris selon les entre 5 et 7%. Et on regarde toujours leur taux de pauvreté qui sera la compartie de l'agenda 2010. Le taux de pauvreté en Allemagne, il faut le regarder très près. Personne ne regarde les statistiques européennes. Mais quand on regarde, il faut le regarder par région. Globalement, il est un peu supérieur à celui de la France. Mais il est 2 fois inférieur dans les ex-Länder de l'Ouest et 2 ou 3 fois supérieur dans les ex-Länder de l'Est. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle que ce soit élevé dans les Länder de l'Est. Mais c'est le prix encore de l'histoire, un taux de chômage qui est élevé dans les ex-Länder de l'Est. Donc, on ne peut pas dire que la politique allemande est allée dans le mur et a eu un prix extraordinairement élevé en termes de pauvreté. Donc, ce que je veux dire, et je finis là-dessus, c'est que, hélas, dans un certain nombre de pays, la déflation, qu'elle prenne une forme ou une autre, est assez logique, bon, et que la construction politique de l'euro, les dirigeants de l'Europe ont considéré que l'euro était un bien à préserver, quoi qu'il en coûte. C'est la formule de Draghi, quoi qu'il en coûte. Alors ça coûte sur le plan financier, ça coûte aussi sur le plan social, on peut le regretter, mais est-ce que nous souhaitons sortir de l'euro? Parce que les mêmes Américains disent, au fond, l'euro dans 15 ans c'est mort, ou peut-être dans 5 ans. D'ailleurs, ils annonçaient il y a 3 ans qu'ils ne passeraient pas l'année 2015. Donc bon, si collectivement nous considérons que l'euro est un bien à préserver et est plutôt favorable, mais on peut en débattre, c'est un sujet ouvert. C'est moins évident qu'il y a 15 ans, ça c'est sûr. Mais si on considère que c'est un bien à construire, il faut arriver à avoir, enfin qu'il y ait des mouvements d'opinion dans tous les pays européens pour dire, nous voulons l'euro. Mais il faut qu'il y ait des convergences qui se fassent, et ça veut dire plus de réformes en France, plus d'investissements en Allemagne, un SMIC en Allemagne, etc., etc. Mais il faut qu'il y ait des mouvements d'opinion. J'ai été trop long.
Certainement pas. Voilà, nous expérimentons qu'il y a matière à débat sur toutes ces questions fortes, et vous nous éclairez l'un et l'autre. Nous allons prendre quelques questions maintenant. Voilà, un micro va circuler. N'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Pour l'instant, je ne vois personne.
Si. Alors, au milieu.
Voilà, au milieu, puis ensuite devant. Nous prenons 2-3 questions.
C'est difficile d'être le premier. Tout ce que vous nous avez dit, bon, il y a du bon et du mauvais, si je peux résumer. Mais notre problème aujourd'hui, c'est surtout notre pays, l'Allemagne, la communauté européenne, tout ça, c'est très bien, il faut vivre avec. Mais c'est notre pays. On a parlé de réduction des dépenses publiques. L'un d'entre vous n'est pas tellement pour et l'autre est pour. Ce que je demande, moi, c'est de savoir si, avec nos hommes politiques actuels, quels qu'ils soient, nous pourrons aboutir un jour à ce qu'il y ait un peu de courage dans les décisions qui sont prises. Quand je dis du courage, ça veut dire remettre en cause un certain nombre d'éléments de fonctionnement de notre pays et surtout de revenir sur des acquis sociaux dont certaines couches de la population bénéficient largement pendant que tous les autres voient leurs impôts augmenter et leurs revenus baisser. Avoir du courage, ça veut dire pardon, est-ce qu'on est prêt à diminuer par deux ou plus le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'on est prêt à diviser le nombre d'élus? Il y en a 500 000 en France. Est-ce qu'on est prêt à faire ce genre d'effort, supprimer par exemple le Conseil économique et social qui fait d'excellents travaux mais qui ne servent à rien? Est-ce qu'on peut prendre ces décisions, même si elles sont impopulaires, mais faire un peu avancer ces dossiers, sinon on ne s'en sortira pas?
Voilà, merci. Devant, voilà, monsieur.
Et d'abord, à vous remercier pour votre excellente présentation, qui ont l'avantage de montrer un petit peu comme une monnaie les deux faces, hein, parce que effectivement, c'est extrêmement complexe. Il y a un point quand même sur lequel un peu de convergence, c'est qu'on se rend bien compte qu'en France, la dépense publique arrive à une certaine limite. Il y a certaines convergences, ne serait-ce que les dépenses publiques, c'est d'abord l'argent des Français. L'argent des Français n'étant pas illimité, on s'en rend bien compte qu'il faut trouver autre chose. Et c'est en fait les financements privés. Et en particulier aujourd'hui c'est la dépenser, soutenir notre dette publique. Mais est-ce que l'attractivité, développer l'attractivité des financements privés pour relancer l'activité, en quelque sorte à rendre plus attractive, pour inciter justement aux investissements, créer de la richesse qui permet par ce biais-là d'avoir des recettes publiques qui augmentent et de donner les moyens de pouvoir baisser ensuite la dépense publique?
Merci. Une troisième question. Donc un ensemble autour de la dépense publique, dépense privée, oui.
Merci, oui. Donc merci pour votre présentation. Moi j'avais une question, c'était sur la financiarisation des activités bancaires qu'on considère parfois comme un problème. Je ne sais pas si c'est fait exprès que vous n'ayez pas insisté dessus. Dans le prolongement, c'est justement, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'union bancaire en Europe, est-ce que ça se développe? Et on voit par exemple qu'à très long terme, il y a la crise finalement est la norme, et que le seul moment où il n'y a pas de crise, c'est quand il y a une réglementation bancaire et qu'il y a un cloisonnement entre activité bancaire et financière entre 45 et 84. Donc ma question est là-dessus, sur la réglementation bancaire.
Merci. Donc une question de nature plus technique. La première, je ne sais pas dans quel ordre nous les prenons, mais la première portait sur une remise en cause d'un certain nombre de fonctionnement. Il parlait du courage politique.
Moi, je veux bien reprendre là-dessus sur le courage politique. Alors, vous posez une question, je pense, dans des termes qui sont assez pertinents, c'est-à-dire le rôle de l'État dans un pays et d'assurer la justice dans ces différentes formes de contrats intergénérationnels ou pas, et doit être en position, effectivement, de pouvoir, lorsque cela devient nécessaire et évident, de remettre en cause des acquis. Et là-dessus, je partage votre intuition. Alors, là où je la rejoins moins, et ça me permettra de rebondir sur la deuxième question, c'est... Alors, vous dites, quand est-ce qu'on aura le courage de diviser par deux le nombre de fonctionnaires? Là, il s'agit de bien réfléchir, hein, parce que la plupart des fonctionnaires en France, enfin ce qu'on appelle les fonctionnaires en France, sont des gens qui travaillent dans l'éducation nationale ou dans le système de santé. Donc, diviser le nombre de fonctionnaires par deux dans la santé ou dans l'éducation nationale... Bon, il y en a une partie territoriale, mais il y a quand même un gros bataillon... santé et éducation nationale. 1,2 million dans l'éducation nationale, 1,5 million dans la santé. Sur les 5 millions de fonctionnaires, ça nous fait pratiquement la moitié dans le secteur éducation-santé. Diviser par deux l'éducation nationale et la santé, ça a un coût en termes de services rendus. Donc, vous avez parlé de création de richesses. Bah, y a une création de richesses dans le secteur public aussi. Voilà. Après, je vais faire une réponse un peu de jésuite, si vous me permettez. Je la prépare depuis tout à l'heure.
C'est manifestement un compliment.
On va apprendre ce que c'est.
Bah, voilà une réponse de jésuite, en tout cas. Très bien. Le niveau de dépenses publiques, on l'a dit plusieurs fois, et il serait sot de vouloir le contester, est très élevé en France. Ça a une conséquence, c'est que on peut réfléchir à le réduire pour se ramener à quelque chose qu'on jugerait normal. Je pense que ce n'est pas la bonne façon d'aborder le problème. Mais ça a une conséquence qui est qu'on a nécessairement une exigence qui doit être très forte sur comment cette dépense publique est réalisée. Précisément parce qu'on a un niveau élevé. Et non pas dans le sens, il faut qu'on la réduise, etc. C'est, on paye très cher pour une éducation. Est-ce qu'elle est de bonne qualité ? Mais voilà, c'est ça. Mais c'est... Et est-ce qu'elle sera de meilleure qualité quand on aura divisé le nombre d'enseignants par deux ? Non.
Devant les élèves.
Devant les élèves. Oui, non, mais ceux-là, ils sont payés. Oui, oui. Ah, oui. Donc, je pense que l'attention, on devrait plus la porter sur l'efficacité, mais l'efficacité au sens où les enseignants qui sont payés doivent être devant les élèves, les cours doivent être assurés, les programmes doivent être tenus, les enseignants doivent être des enseignants bien formés, motivés, les chefs d'établissement doivent avoir des responsabilités organisationnelles qui leur permettent d'animer les équipes, ou si on veut parler un peu moins neuf langues, de pouvoir sanctionner des enseignants qui ne sont pas dans le... Voilà, c'est ça l'efficacité de la dépense publique. Et quand on a un niveau élevé de dépense publique, on se doit d'avoir une dépense publique extrêmement efficace. Et c'est peut-être plus la question, à mon avis, qui se pose aujourd'hui en France que la question de la réduction. Parce que la question de la réduction, quand on réduit une dépense publique élevée en disant « on va enlever des fonctionnaires, etc. », c'est le meilleur moyen pour que, en fait, ça ait des conséquences de dégradation de l'efficacité. Je pense que ça, chacun d'entre nous peut en avoir la constatation. Ah, vous avez peut-être des enfants, et en tout cas, moi, mon vécu en tant que parent est assez catastrophique sur comment l'éducation nationale fonctionne et comment les enseignants vous disent, quand vous leur dites « mais c'est pas possible que ça se passe comme ça », ils vous disent « oui, mais en fait, c'est parce qu'on nous a coupé tous les moyens et que, du coup, ben, on n'est pas motivé et que, du coup, on se venge comme ça ». Ou en tout cas, c'est la conséquence. On n'assure plus le service qu'on est censé rendre. Et je pense que c'est là que se pose la question.
Sur le courage politique, moi, je reprendrais bien une formule britannique qui est « half pregnant ». Ça veut dire en France, c'est les demi-mesures. Une femme n'est pas enceinte ou pas enceinte. Elle n'est pas enceinte ou enceinte. Elle n'est pas à moitié enceinte. En France, nous faisons des demi-mesures sans cesse. On commence à prendre, à faire des réformes, mais on s'arrête au milieu parce qu'on ne sait pas très bien si on peut aller plus loin politiquement. Et donc, après, il faut corriger et on n'arrive jamais à aller au bout. Il y a un exemple fantastique en ce moment, c'est l'ouverture des magasins le dimanche. Aujourd'hui, les maires ont le droit d'autoriser 5 dimanches d'ouverture par an. La loi Macron, qui sera présentée la semaine prochaine, veut faire passer à 12 dimanches. C'est pas l'ensemble de l'année. Eh bien, le Parti socialiste, le groupe socialiste, a décidé que ce serait au maximum 7. Bon, 2 mois de débat, 6 mois de débat au Parlement, et il faudra corriger à un moment ou un autre. Parce qu'évidemment, alors c'est le cas des zones touristiques exceptionnelles, autre sujet à Paris, les grands magasins du boulevard Haussmann ne sont ouverts qu'un certain un nombre limité de dimanches, parce que, et la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, s'oppose à ce qu'ils soient trop ouverts, en considérant que ça tuerait le petit commerce. Parce qu'on est toujours persuadé que si on remplit une assiette, on vide l'assiette du voisin. Non, ce n'est pas vrai. Si les touristes chinois, aujourd'hui, passent la semaine à Paris et le week-end à Londres, c'est parce que les magasins ne sont pas ouverts le dimanche. Et donc, on est toujours dans l'entre-deux. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des décisions plus franches ou plus nettes ? Je pense que le système... politique est quand même pour beaucoup et qu'on est vraiment au bout d'un système. Je ne vais pas répondre exactement pour compléter sur le même terrain que Xavier. Je pense qu'on est vraiment au bout du système du bipartisme, c'est-à-dire où on passe Les présidents de la République, pour être élus, doivent raconter des histoires, et au bout d'un an, ils sont obligés, soit parce qu'il y a une crise, soit parce que la réalité les rattrape, de dire, écoutez, je me suis trompé, le bilan était mauvais, il faut tout changer, et de faire un grand virage, ce qu'on appelle la nouvelle politique économique. On connaît ça depuis 30 ans. On a connu ça 80, et puis virage 82-84. On a connu ça, Chirac élu en 95, changement de politique à l'automne 95. Nicolas Sarkozy a été pris par la crise et François Hollande a dû changer au bout d'un an. Ce système ne fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Parce que nous avons probablement, ça nous entraîne très loin, un mode de scrutin qui a été bâti en 58 parce qu'il fallait effacer la 4e République, mais qui aujourd'hui, ce mode de scrutin, divise l'opinion, divise la France en deux. Nous avons un système pyramidal de président de la République qui est Dieu tout puissant, pardon, ici, et qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Les démocraties modernes fonctionnent sur le mode du consensus. En Allemagne, il y a des défauts, il y a des avantages, etc. Mais en Angleterre, ça fonctionne différemment. On est dans un système qui est un peu au bout du rouleau. Chacun, c'est très frappant aujourd'hui. Quand on voit la plupart des ministres en privé, en gros, la plupart des grands maires, vous voyez le maire vous voyez le président de la région Aquitaine, le président de la région de Colomb, vous voyez. Ils savent à peu près ce qu'il faudrait faire. Et ce n'est pas une remise en cause spectaculaire du modèle social. Évidemment, Angela Merkel a raison quand elle dit que notre patrimoine commun à nous en Europe, c'est notre modèle social. Mais c'est entre le modèle social, il ne faut rien bouger et il faut le mettre à bas, il y a évidemment mille possibilités. Il y a eu mille rapports de gens du centre droit, du centre gauche, de droite, de gauche raisonnable, qui disent à peu près la même chose. Ils s'empilent absolument partout. Et ça n'avance pas. Alors, la grande théorie politique, et je termine là-dessus, ça a été pendant des années, il faut surtout, quand on fait des réformes, ne pas en parler, ne pas les annoncer. C'était la théorie pas de scalp. Jamais de scalp. Quand on prend une réforme, il faut que personne ne puisse se dire « je suis la victime ». Et donc, on y va en douceur. Je crois que ça ne fonctionne pas non plus, parce que, évidemment, avec les réseaux sociaux, les médias partout, etc., tout le monde repère tout de suite. Tout le monde en sait plus quasiment que les gouvernants aujourd'hui. Et donc, il vaut mieux dire la vérité, dire les choses franchement, voilà ce qui va, voilà ce qu'on veut préserver, etc., plutôt que de louvoyer et de ramer un pédalo.
Voilà, je crois qu'il était important que l'on passe un petit peu de temps sur cette question-là. Deux autres questions sont venues, peut-être plus techniques. Je ne sais pas s'il y a moyen de dire quelque chose avant de reprendre ou deux autres questions.
Très rapidement sur la financiarisation, on n'en a pas parlé, c'est vrai. J'en ai quand même un petit peu parlé en vous parlant du rapport de force qui est nécessaire d'établir avec les marchés financiers. Je pense qu'en fait, dans le poids que peut prendre la finance aujourd'hui, la vraie question, elle est là plus que dans la réglementation. Elle est dans accepter de jouer ce rôle de comprendre le pouvoir des États. C'est-à-dire les États portent le fonctionnement des économies et en assurent la sécurité ultime. Et cette sécurité ultime, elle représente une valeur extraordinaire pour les gens, en particulier dans la finance. Pas uniquement pour eux, pour nous tous en fait, mais dans la finance, elle représente une valeur extraordinaire. Et il faut d'une façon ou d'une autre leur faire payer leur juste dû pour cette sécurité. La grande force de la finance, c'est de pouvoir échapper à ce paiement de leur juste dû. Et l'Europe, un des rôles de l'Europe, alors c'est pas très sexy de le dire, mais c'est quand même fondamental et extrêmement important, un des rôles de l'Europe, c'est d'assurer ce rapport de force à nouveau et de pouvoir traiter la finance comme n'importe quelle activité, en particulier quand il s'agit de payer son dû sous forme d'impôt, par exemple. Là, est-ce que l'union bancaire va dans ce sens? L'union bancaire va partiellement dans ce sens, dans le sens où elle conduit à briser le risque de la connivence entre les gouvernements et la finance. Et elle le brise parce qu'elle définit des règles de faillite, des règles de financement qui veulent dissocier les systèmes financiers nationaux de leur gouvernement, ce qui est un vieux péché européen. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, donc on a vraiment, ce que là, par rapport aux Allemands, aucun complexe à avoir. Mais on n'a aucune fierté non plus à avoir. On a un système dans lequel la connivence est assez forte et assez élevée. Et l'union bancaire vise à petit à petit grignoter cela. Il faudra du temps et on est loin du compte.
Entièrement d'accord sur l'union bancaire. La difficulté des années qui viennent, c'est que les banques centrales ont créé énormément de monnaie. Et que va-t-elle devenir, cette monnaie? On la voit beaucoup dans la finance non contrôlée, la finance de l'ombre, qui prend une importance considérable. En positif, des efforts très notables ont été faits, par exemple, pour lever le secret bancaire. C'est l'accord de Berlin, de l'OCDE et de Berlin, il y a une dizaine de jours. Vous avez vu la révélation de tout ce qui s'était fait au Luxembourg, enfin, qui est un secret de Polichinelle, mais on sent que les choses avancent. Donc, de ce côté-là, on peut être plutôt optimiste.
Voilà, nous avons évoqué l'Aquitaine et justement une question nous vient de Bordeaux.
Alors, de Bordeaux, deux questions je choisis. Qu'est-ce que vous pensez du problème que suggère M. Thomas Piketty? Faut-il instaurer un impôt progressif sur le capital alors que les inégalités deviennent insoutenables? Donc, dans une démocratie, nous dit notre auditeur, les inégalités ne sont acceptables que si elles sont justifiées. Et deuxième question, si vous permettez, comment considérer le rapport au temps dans la décision politique avant d'autoriser telle ou telle construction? Est-ce que c'est vraiment un problème, nous dit-on, de considérer qu'il faut prendre tous les avis? Et l'exemple de Notre-Dame-des-Landes ou du barrage de Sivens ne suggère-t-il pas qu'on aurait dû prendre justement du temps?
Voilà, deux questions de nature assez différente. L'une qui porte sur l'impôt, l'autre sur le rapport au temps.
Très rapidement, c'est deux très belles questions à laquelle j'aurais envie de répondre oui et oui. Donc, ça, c'est vraiment une réponse courte. Alors,
et moi, je réponds non et non.
Voilà, donc je vais...
Vous voulez savoir pourquoi ou pas?
Je vais être obligé de développer un tout petit peu Louis. Thomas Piketty et les inégalités, et je pense que la question résume très bien. Oui, dans une société démocratique, les inégalités doivent être justifiées. C'est le vieux principe de la théorie de Rawls. Il faut justifier les inégalités. Pour les justifier, il faut déjà les connaître. Et le premier travail et la première pierre très importante que Thomas Piketty a posée dans le débat, c'est de mettre la lumière sur les inégalités. Après, est-ce qu'il faut faire une taxation sur le capital? J'en suis moins sûr. Il y a d'autres moyens pour traiter la question des inégalités. Mais en tout cas, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut faire un inventaire. C'est ce qui a été fait à la Révolution française, quand on a fait l'inventaire des biens. Et l'inventaire des biens a permis de prendre tout un tas de décisions extrêmement importantes en matière de justice. Parce qu'enfin, on a su qui avait et combien il avait. Et ça, c'était essentiel pour ensuite pouvoir bâtir une société sur la confiance. Prendre le temps, oui, je pense que c'est important, et je m'oppose à Dominique Seux là-dessus. On ne doit pas construire des barrages au pas de charge, on ne doit pas construire des aéroports au pas de charge. On est dans un pays, il faut accepter, qui est un pays riche, âgé, et le dynamisme n'est pas dans la vitesse à laquelle on construit des autoroutes ou des aéroports. On est plutôt saturé d'équipements et d'infrastructures. Et donc les infrastructures qu'on construit, il faut les construire avec discernement pour éviter ensuite d'avoir des rapports de la Cour des comptes qui nous disent la ligne de TGV qui a été construite n'est pas rentable. Et ça, il faut s'en apercevoir avant, parce que s'en apercevoir après, c'est trop tard.
Non et non. L'impôt progressif, en fait, l'impôt sur le capital est déjà progressif puisqu'il est lié à l'impôt sur le revenu, donc depuis 2012. Donc c'est le barème de l'impôt sur le revenu qui est progressif. Sur les inégalités, je vais prendre le contre-pied total de ce qui a été dit. Je pense qu'il y a ce qui est invisible et ce qui est visible. Ce qui est visible est anecdotique, statistiquement. L'explosion des inégalités, c'est le 0,0001 qui a flambé en France. Je parle de la France ces 15 dernières années. C'est quelques milliers d'individus, mais c'est statistiquement sans conséquence, parce que si on prend les 10% de Français les plus riches et les 10% de moins riches, l'écart est le même depuis 25 ans, quelque chose comme ça, à quelque chose près. Et donc, ce qui est visible et statistique et anecdotique, alors je sais que politiquement c'est important, mais économiquement ça a peu de sens. En revanche, le vrai élément important, c'est, et on peut s'en réjouir, c'est que l'écart de revenus entre les 10 plus riches, les 10% les plus riches et les 10% les moins riches est stable en France, et la France est exception, fait exception en Europe et quasiment dans le monde depuis longtemps. Sur Sivens, je pense que quand un conseil général se prononce, je crois, à 41 voix sur 46 pour un barrage après des processus extrêmement longs d'enquête, je ne vois pas pourquoi il est arrêté par des gens qui font 3% aux élections nationales. Voilà.
Oui et oui, non et non, je crois que nous non, avons tout
de on même... radicalise un peu pour le débat.
Oui, hein. voilà, parce que
on en rajoute un peu.
Je crois que nous sentons tout de même beaucoup de convergence, enfin, en tout cas quant à la prise de responsabilité, quant à la nécessité de donner toute sa place au temps et au débat. Alors, bien entendu, par rapport à la question où va l'économie française, l'économie de la France, rien n'est réglé. Et il y a encore du pain sur la planche pour les analystes et les politiques, mais en tout cas des repères vraiment nous ont été donnés par cette soirée, des repères pour notre conscience citoyenne. Et je crois que c'est bien l'objectif de ces soirées. Aussi, je veux vraiment vivement remercier Dominique Seux et Xavier Timbaud pour le rapport ce soir. Un très grand merci à vous.
Merci à vous.
Alors, un grand merci aussi à vous qui participez à ces soirées à Paris et ailleurs. Alors, avant de vous annoncer le thème de la prochaine soirée, donc on ralentit un petit peu dans la sortie lorsque je dis cela, je vous signale un article d'Étienne Perrault dans le numéro d'études, puisque cette soirée se fait en partenariat avec la revue Études, dans le numéro d'octobre de la revue Études, l'économie française en trompe-l'œil. Voilà. Ce numéro est disponible, si vous le souhaitez, à l'accueil du centre. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, le pouvez, voilà, dans la mesure des revenus, déposer une contribution pour les frais d'organisation de cette soirée. Et je suis heureux de vous annoncer le thème de notre soirée de l'année prochaine. Je ne retrouve plus ici. Le mardi 6 janvier, la fête des rois, un titre, donc un sujet en collaboration plus particulièrement ce soir-là avec le département d'éthique biomédicale, donc un département du Centre Sèvres, sur Ebola, l'épidémie Ebola, peur, prévention et traitement et solidarité internationale, avec notamment la question de l'Afrique. Nous recevrons le professeur Marc Gentilini et le professeur Catherine Leport le mardi 6 janvier prochain. Merci encore à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.